Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chemins de la vie avec l'autrice Jida Ayad. Aujourd'hui, nous allons parler de la réconciliation entre la sécurité alimentaire et le plaisir de vivre. Pour commencer, imaginons un instant une cuisine, en fait une cuisine familiale. Une pièce hyper chaleureuse, super familière, vraiment le lieu de réconfort absolu où on prépare le repas du soir. Et puis, imaginons que, du jour au lendemain, ce refuge se transforme en un champ de mine microscopique.
C'est exactement ça, oui.
Chaque miette oubliée sur le plan de travail, la petite grille du grille-pain qu'on partage en famille, ou même la simple cuillère en bois qu'on utilise tous les jours, tout ça devient soudainement une menace invisible.
Complètement.
Et pour une personne qui découvre sa maladie cœliaque, ce scénario, c'est pas du tout une paranoïa passagère. C'est vraiment la nouvelle réalité du quotidien.
Mon de vie. Et avant d'aller plus loin, c'est super important de situer un peu la voie qui nous guide aujourd'hui. L'autrice qu'on explore a un profil assez exceptionnel, puisqu'elle est docteur en sciences agronomiques et enseignante-chercheuse.
Ouais, un bagage scientifique solide du coup.
Voilà. Et elle est aussi nutritionniste spécialiste de l'alimentation sans gluten. Mais surtout, le point clé, c'est qu'elle est elle-même cœliaque. Donc ce double regard, à la fois ancré dans la science pure et dans l'expérience intime, ça lui permet d'aborder le sujet avec une bienveillance vraiment rare.
C'est clair. Et son message central est d'ailleurs empreint de cette douceur. L'autrice rappelle que si la vigilance face au gluten est vitale, la peur, elle, nous enferme. En développant ses connaissances et en adoptant des stratégies rigoureuses, il est possible de se protéger sans se priver de vivre. Le but n'est pas d'atteindre un risque zéro absolu qui paralyse, mais de redevenir maître de son quotidien et de ses joies.
C'est vraiment le cœur du propos, oui.
Et notre mission aujourd'hui, à travers cette analyse de ses écrits, c'est vraiment d'accompagner en douceur les personnes touchées par la maladie cœliaque. Le but, c'est de transformer ce qui ressemble au début à une contrainte médicale hyper lourde en une, disons, une compétence de vie sereine.
Et pour atteindre cette sérénité, il faut d'abord comprendre le traumatisme initial, le fameux moment du diagnostic. En fait, c'est un moment de bascule psychologique qui est fascinant.
Parce qu'il y a un soulagement au départ, non ?
C'est ça. D'un côté, il y a un soulagement immense, des douleurs ou des symptômes qu'on ne comprenait pas parfois depuis des années trouvent enfin une explication rationnelle. On met un nom sur le coupable.
Ouais, enfin, on sait ce qui cloche.
Exactement. Mais la transition vers le traitement, qui est, rappelons-le, l'éviction totale du gluten, ça crée un choc énorme. L'alimentation, qui est quand même l'acte social et vital par excellence, devient une source d'anxiété permanente.
C'est vrai, et cette angoisse, elle est ancrée dans une réalité biologique qu'il faut peut-être détailler un peu. Parce qu'on pourrait se dire, pourquoi une simple miette de pain sur une planche à découper justifie une telle panique ? On n'est pas sur une simple intolérance digestive passagère, là, si.
Ah non, pas du tout. La distinction est vraiment cruciale. La maladie cœliaque, ça déclenche une réaction auto-immune. En fait, pour bien visualiser ce qui se passe, on peut imaginer la paroi de l'intestin grêle.
D'accord.
Elle est tapissée de ce qu'on appelle des villosités intestinales. En gros, on peut se les représenter comme un magnifique tapis à poils très longs, dont le rôle est vraiment d'absorber tous les nutriments pour nourrir le corps.
Un tapis moelleux, ok ?
Voilà. Et lorsqu'une personne cœliaque ingère du gluten, même en quantité vraiment infime, son système immunitaire s'attaque à ce tapis. Les pois sont littéralement détruits, la surface devient toute lisse, un peu comme un carrelage.
Ah ouais, la différence est énorme.
Et du coup, les nutriments glissent sans être absorbés. C'est ça qui entraîne des carences très graves et des dommages profonds. Donc la peur de la contamination croisée, tu sais, comme utiliser la même eau pour des pâtes avec et sans gluten, ou un couteau mal nettoyé, elle est totalement fondée sur un danger physiologique réel.
Donc la menace est bien réelle, ce qui justifie évidemment la vigilance. Mais l'autrice met en lumière un phénomène super particulier, c'est le moment où le cerveau, dans son instant de survie, y dérape un peu.
C'est exactement le mot.
Devant cette menace de voir son tapis intestinal détruit, l'esprit cherche à créer un bouclier impénétrable. On veut le risque zéro absolu. Et c'est là que l'environnement familier devient ce fameux champ de mine épuisant qu'on mentionnait. Manger, ça se transforme en enquête policière permanente, et ça draine une énergie mentale folle.
C'est ça. Le cerveau bascule d'une vigilance protectrice à une hypervigilance qui, elle, est destructrice. L'hypervigilance, c'est comme si l'alarme incendie de notre système nerveux restait bloquée sur la position « on », même quand il n'y a pas la moindre fumée.
C'est épuisant.
Totalement. La personne en vient à douter de tout, même de ce qu'elle a elle-même préparé. Cette quête du risque zéro, c'est une illusion complète, parce que la vie comporte toujours des variables qu'on ne peut pas prévoir. Et comme ce risque zéro est impossible à atteindre, la peur grandit pour combler cet écart.
Alors, si le danger physique est réel et que la réaction auto-immune est aussi grave, comment on trouve le point d'équilibre? Parce que ça semble presque contre-intuitif de ne pas avoir peur d'une menace invisible. Alors, décortiquons un peu cela. Comment elle fait l'autrice au quotidien pour différencier une précaution saine d'une peur irrationnelle?
Eh bien, elle propose une clé de lecture très intéressante basée sur l'intention et sur l'impact que ça a sur notre espace de vie. Elle dresse un contraste vraiment frappant entre la rigueur et la peur. En fait, la rigueur construit des stratégies alors que la peur construit des murs.
C'est une belle image.
Oui, et la différence se mesure souvent à l'isolement. Par exemple, face à une invitation à dîner, la peur va te murmurer « N'y va pas, c'est trop dangereux, ils ne comprendront jamais de toute façon ». La peur, elle réduit le monde de la personne à la taille de sa propre cuisine.
Ouais, on se coupe du monde.
C'est ça. La rigueur, en revanche, elle va dire « Eh ben, je vais appeler mon hôte, je vais expliquer les règles de base des contaminations croisées ou je vais proposer d'apporter mon propre plat pour quand même partager ce moment ».
Donc la rigueur permet de rester acteur de sa vie sociale, alors que la peur, elle vérifie tout de manière compulsive, elle soupçonne tout le monde et finit par couper les ponts.
Exactement.
Mais la rigueur, ça demande des outils. On ne peut pas être rigoureux juste par magie. L'autrice explique que la meilleure stratégie pour dissiper ce flou de l'inconnu, c'est la connaissance. Et c'est là que la démarche devient vraiment fascinante. Elle propose un exercice hyper concret, prendre 3 produits de son placard, un naturellement sans gluten, un transformé et un habituel.
Voilà, et d'analyser super minutieusement les étiquettes et les mentions réglementaires. Cet exercice, il est vraiment central dans le processus d'acceptation et de maîtrise. L'idée, c'est de s'asseoir au calme, sans avoir la pression d'un repas préparé dans les 5 minutes, et de décortiquer la composition, de repérer les allergènes qui pourraient se cacher, de vraiment comprendre ce que la loi exige des industriels.
Alors là, je dois avoir une certaine perplexité, parce que, bah oui, si je suis déjà terrorisé par une contamination croisée, me dire de passer 20 minutes à scruter chaque ligne, chaque nom chimique ou petite ligne obscure sur un carton, ça ressemble énormément au comportement obsessionnel qu'on essaye de guérir, non? En quoi suranalyser des emballages, ça ne nourrit pas juste l'angoisse ambiante?
C'est une objection super légitime. C'est vrai qu'en apparence, focaliser son attention sur le danger potentiel, ça a l'air anxiogène. Mais sur le plan cognitif, le mécanisme qui se met en place est très différent.
Comment ça, c'est ?
En fait, l'anxiété généralisée, elle se nourrit du sentiment d'impuissance face à l'inconnu. Quand on regarde un emballage sans avoir les clés pour le lire, on perçoit une menace globale, floue, qu'on ne peut pas définir. L'exercice de l'autrice, il oblige le cerveau à faire un tri rationnel. On sépare clairement ce que je sais de ce que je ne sais pas encore.
Un joie. On passe d'un danger fantasmé à une simple donnée technique, en fait.
Exactement. C'est vraiment le principe de la reconquête de son contrôle. Pour utiliser une autre analogie, c'est comme apprendre les règles d'un jeu de société hyper complexe.
Ouais, au début, c'est la panique.
Voilà. Au début, le manuel semble indigeste, on a peur de faire une erreur à chaque tour, on avance vraiment à tâtons. Mais une fois qu'on maîtrise les règles de base, on ne lit plus le manuel à chaque seconde. On intègre la logique et on se remet simplement à jouer.
C'est hyper clair. Savoir lire une étiquette, identifier la loi sur les traces, c'est maîtriser les règles du jeu alimentaire.
C'est tout à fait ça. L'ignorance nous maintient dans un état de vulnérabilité. Mais l'autonomie par la connaissance, ça transforme une panique sourde en une simple question logistique à régler. L'esprit s'allège parce qu'il retrouve son pouvoir d'action.
Bon, ça c'est génial quand on est chez soi. On maîtrise notre plateau de jeu, la cuisine. Mais ce sentiment de contrôle, il s'évapore à la seconde où on sort de chez soi, non?
C'est le grand défi, oui.
Comment on fait au restaurant surboncé? Confier son assiette, et donc l'intégrité de son intestin, à un parfait inconnu en cuisine, c'est quand même le test ultime.
Le restaurant, c'est vraiment l'épreuve du feu. Parce que là, on délègue sa sécurité. Et pour que cette délégation ne finisse pas en crise d'angoisse, l'autrice insiste énormément sur la communication. La grande erreur, c'est d'arriver au resto et de dire tout timidement « je mange sans gluten » ou « il y a du gluten à dedans ».
Ça ne suffit pas.
Le problème de ces formulations, c'est qu'elles laissent une marge d'interprétation beaucoup trop grande. Aujourd'hui, avec les modes, le sans gluten est souvent perçu comme juste un choix diététique ou de confort.
Un régime, quoi.
Voilà. Du coup, le cuisinier va faire attention aux gros ingrédients, mais il ne pensera pas forcément à nettoyer sa planche à découper ou à changer de cuillère.
D'où la porte modeste était spécifique. Et l'autrice recommande une phrase qui est presque un vrai protocole verbal. Elle dit « Je suis atteinte de maladie cœliaque et j'ai besoin d'une préparation sans gluten, en évitant également les contaminations croisées. »
Et le choix de chaque mot compte ici. C'est de la psychologie. Le terme « maladie cœliaque », déjà, ça pose le cadre médical direct. Mais c'est surtout le fait d'ajouter « contamination croisée » qui change tout.
Ça fait très technique.
C'est le but. Entendre ce terme technique, ça signale tout de suite aux professionnels qu'on n'est pas sur une simple demande de confort. Ça prouve que le client maîtrise son sujet. Et face à cette précision, le serveur ou le chef est forcé de sortir de ses automatismes et d'évaluer honnêtement s'il peut, oui ou non, assurer ce service en sécurité.
Mais il y a un autre obstacle énorme, c'est la pression sociale, non ? Parce que poser ce genre de conditions super fermement devant ses amis ou ses collègues, on a vite l'impression d'être la personne compliquée du groupe, celle qui ralentit tout le monde.
Oh oui, cette culpabilité sociale, c'est un fardeau très lourd. L'autrice en parle beaucoup. Elle invite vraiment à un changement de paradigme. Si, après avoir formulé cette demande poliment mais clairement, les réponses en face sont évasives ou agacées, bah il faut se donner le droit absolu de dire non.
De partir, carrément.
Oui. Refuser de manger dans un endroit qui ne garantit pas notre intégrité physique, ce n'est pas un caprice et ce n'est pas gâcher la soirée. C'est un acte de préservation de soi. C'est juste accorder à son corps le respect qu'il mérite. Comprendre ça, c'est incroyablement libérateur.
C'est sûr. Se donner la permission de partir, ça redonne le contrôle. Et si on pousse ça encore plus loin, qu'en est-il du voyage humain ? Quand on part à l'étranger, qu'on change de culture, parfois de langue, la petite phrase protocolaire dont on vient de parler, elle devient super compliquée à placer.
Le voyage, ça exige de repenser toute sa stratégie, c'est clair. L'outil central de l'autrice pour gérer ça, c'est le fameux plan B. Et ça va bien au-delà de la logistique de base. En fait, sur le plan neurologique, avoir un plan B s'agit directement sur le système limbique, la partie du cerveau qui gère la peur.
Attends. Comment un simple, je sais pas, un paquet de gâteaux dans un sac à dos peut avoir un impact neurologique ?
Eh bien, parce que la peur naît de l'impasse. Si on voyage en se disant que notre survie dépend uniquement d'un resto sans gluten repéré sur Internet, le stress est maximal. Si le resto est fermé, si le vol a du retard...
Le cerveau se dit qu'on va mourir de faim.
C'est ça, il perçoit une menace vitale. En revanche, si on a dans son sac des aliments de secours fiables ou une petite carte de traduction dans la langue locale, le message envoyé au cerveau change totalement. Ce n'est plus un danger de mort, c'est juste un petit désagrément logistique.
Ça fait baisser la pression.
Immédiatement, le taux de cortisol chute. La sécurité ne dépend plus d'un environnement qu'on ne contrôle pas, elle réside dans notre propre capacité d'adaptation.
Et cette capacité d'adaptation, ça nous amène à une réflexion beaucoup plus vaste sur la place de la maladie dans la vie. Il y a une dimension identitaire très forte dans le texte de l'autrice. Parce qu'à force de lire des étiquettes et de briefer des serveurs, le risque, c'est que la maladie avale complètement notre identité, non ? On est aussi un parent, un professionnel, un passionné.
Redimensionner la maladie, c'est le travail d'une vie. Le gluten, il doit retourner à sa juste place, c'est-à-dire un simple paramètre technique à gérer et non pas le metteur en scène de toute notre existence.
Et comment on fait ça en pratique ?
L'autrice recommande d'instaurer des rituels quotidiens, des petits sas de décompression. Par exemple, le matin, avant que la folie de la journée commence, se poser une question douce. Quelle peur est-ce que je peux laisser à sa juste place aujourd'hui ?
C'est beau.
C'est une décision consciente de ne pas laisser l'hypervigilance tout diriger. Et le soir, un autre rituel pour clore la journée. Face à cette situation stressante à midi, ma réaction était-elle proportionnée au danger ou est-ce l'angoisse qui a pris le dessus ? Faire ça sans se juger, ça nettoie vraiment l'ardoise mentale.
On ne subit plus ces émotions, on les observe. Et cette observation, elle mène à un défi super touchant que propose l'autrice, le défi du jour 6. L'idée ? C'est de passer à l'action pour reconquérir son territoire personnel, c'est ça, hein ?
C'est exactement l'incarnation de la réconciliation. Le défi, c'est de cibler une toute petite liberté que la peur nous a volée et de la reprendre. Pas besoin d'organiser un banquet de mariage, hein ?
Ouais, des petites choses.
Voilà, des actes minuscules. oser s'asseoir en terrasse pour prendre un simple café, acheter un ingrédient qu'on n'osait plus tester par peur des traces, ou cuisiner pour un proche.
C'est l'application de la fameuse rigueur du début. On prépare, on sécurise, et ensuite on s'autorise juste à vivre.
La répétition de ces petits bliquois, ça transforme tout. Ce qui était une prison devient une compétence qu'on maîtrise. Et comme la conduite ou un instrument de musique, ça demande de moins en moins d'énergie au fil du temps. C'est là que la sécurité alimentaire devient vraiment le socle du plaisir de vivre et non plus son ennemi.
Alors qu'est-ce que tout cela signifie profondément pour l'avenir ? Ce cheminement offre une perspective finale vraiment fascinante. On a vu comment la gestion de cette pathologie impose de développer des trésors de résilience. Elle oblige à écouter son corps, à maîtriser son environnement, à communiquer sans s'excuser et à avoir toujours un plan B. Si l'on prend un peu de recul, ces compétences nées de la contrainte médicale, elles sont d'une puissance inouïe. Le triste nous invite à réaliser que, paradoxalement, devoir naviguer au quotidien dans ce champ de mine invisible, ça nous apprend à cartographier la vie avec tellement d'acuité qu'on finit par devenir beaucoup plus fort et plus adaptable face à toutes les autres incertitudes de l'existence. La contrainte, une fois maîtrisée, devient une force tranquille.
Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.